Là, dans ce village où je suis, il y a 712 familles musulmanes, 49 familles bouddhistes et 132 familles chrétiennes catholiques. Et là, de ces 132 familles sont issues 12 religieuses qui sont dans 8 congrégations différentes, 6 prêtres et actuellement encore 3 séminaristes en préparation. Et c'est un peu un îlot de paix, de bonne entente et de dialogue de vie, puisque à la fin du Ramadan, toutes les familles chrétiennes et bouddhistes vont visiter toutes les familles musulmanes. Pour la fête du Waïsak bouddhiste, ce sont les chrétiens et les musulmans qui vont dans toutes les familles bouddhistes. Et pour Pâques, ce sont tous les musulmans et tous les bouddhistes qui viennent visiter les familles chrétiennes. Ça dure 3 jours. C'est vraiment la fête pendant ces 3 fêtes donc marquantes pour chacune des religions.
Comment est-ce que vous avez réussi à instaurer cet esprit?
C'est arrivé pourquoi? Parce que ce sont des transmigrants venus de Java, qui sont donc de la même ethnie, souvent de familles déjà proches, et puis c'est venu comme ça. Et vraiment, c'est, je dirais pas que c'est un petit paradis, mais c'est vraiment quelque chose de très prenant. Ça a été pour moi une expérience très, très forte. Ça n'est pas vrai dans toutes les paroisses du diocèse, mais on peut dire quand même que dans le sud Sumatra, les 3 diocèses de Pangkalpinang, de Palembang et de Tanjung Karang, il y a la paix, il y a la bonne entente, malgré les différences, mais dans ces différences justement vécues ensemble, dans un respect profond. Malgré aussi, chez les musulmans, il y a une secte assez un peu extrémiste, LBII, 70 à 80 familles. Ils ont été longtemps un petit peu en retrait, et puis maintenant, l'unité s'est faite à nouveau. Et tout simplement, ça s'est fait comme ça, dans la vie, dialogue de vie. Ce n'est pas dans des dialogues interreligieux où les différences ressortent, c'est dans la vie où une véritable charité s'est installée.
Est-ce que ça se manifeste autrement, cette vie ensemble? Est-ce que c'est de l'entraide au quotidien? C'est du dialogue aussi
C'est du
spirituel?
dialogue quotidien, toutes les fêtes de famille, des naissances, des mariages comme des morts sont vécues ensemble, chacun priant suivant ses convictions et en marquant aucune différence. Et vraiment, c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, simplement.
Quand vous dites que c'est une exception, ça veut dire que ailleurs, c'est plus compliqué?
Dans certains coins, ça peut être plus compliqué. Les lieux de culte, il y a des fois des difficultés pour avoir la permission de construire. Ce n'est pas tellement le cas dans notre région, bien que les chrétiens ne soient qu'à 0,5% dans le sud Sumatra. Alors qu'au nord Sumatra, diocèse de Medan, ils sont à 77%. Mais il y a une telle diversité en Indonésie, entre le nord et le sud Sumatra, par exemple, ou dans les îles de Flores, où il y a 88% de chrétiens, ou dans les grandes villes, où il y a de grosses paroisses. Mais en général, malgré les troubles qu'il y a eu à la fin du régime de Suharto dans les années 95-97, il y a eu pas mal d'églises brûlées, chrétiennes protestantes beaucoup plus et chrétiennes catholiques aussi. Il y a une dizaine de jours, une bombe dans une église chrétienne de Solo au centre Java avec un kamikaze qui s'est fait exploser. Il y a eu encore quelques morts, mais enfin, en général, non. Bien sûr, il y a des difficultés, aussi bien pour la construction de nouveaux lieux de culte. Tout dépend de l'endroit, tout dépend de la situation.
Qu'est-ce qui fait que parfois la construction d'une église est problématique? Pour qui? Les autorités, la
Parce qu'il y
population?
a une loi qui est parue. Il faut un nombre assez important de chrétiens pour avoir la permission de construire une église. Et il faut aussi l'autorisation de tout le voisinage. Alors souvent, ça pose des problèmes insolubles. Et on a vu des églises même construites avec la permission des autorités gouvernementales, ministres des cultes, et l'église n'a pas pu être mise en service à cause de l'opposition d'une partie de la population. Ça, c'est un véritable problème qui a été évoqué d'ailleurs par les présidents successifs, moins par celui-ci, qui n'a pas l'air de trop s'intéresser au problème. Le problème existe, mais on ne peut pas dire quand même que En Indonésie, en général, il y a des difficultés partout. Pour les constructions, oui, c'est difficile. Mais pour la pratique religieuse, que ce soit dans les églises ou dans les réunions de quartier, souvent, ça se passe très bien. À condition d'être assez discret. Notre manière de vivre, de réunion, de prier, il ne faut pas de provocation. Bien sûr, on ne peut pas faire des processions dans les villages ou dans les villes ou des choses semblables. Mais enfin, en général, malgré des difficultés, ça se passe pas trop mal un peu partout.
Quand vous dites que il y a de la population parfois qui, malgré l'autorisation du gouvernement, des autorités, la population ne donne pas son accord et s'organise pour que des églises ne puissent pas être totalement construites, qu'il y ait des bombes comme ça. Est-ce que c'est l'œuvre de fondamentalistes ou est-ce qu'il y a aussi des modérés qui sont contre? Ou est-ce que les modérés vous aident?
Pas forcément les fondamentalistes, non, mais parce que la majorité est musulmane et que la minorité chrétienne est vraiment petite, alors là, ça peut poser de problème. Mais quelquefois aussi, pour des groupes chrétiens importants, on a une difficulté de construire une nouvelle église. Ça, c'est exact. Et le problème a été évoqué par la conférence épiscopale, aussi bien que par l'Union des églises protestantes. Mais enfin, bon, c'est pas général non plus. Tout dépend un petit peu aussi des autorités locales, de l'entourage. Mais enfin, bon, ce n'est pas quand même une persécution brutale. Mais il y a souvent des empêchements à l'exercice plus large ou plus libre du droit à la liberté religieuse.
Est-ce que pour les écoles ou pour les œuvres de charité, il y a ces problèmes également?
Non, il y a quand même des écoles chrétiennes qui sont d'abord de bonne qualité et qui sont fréquentées par beaucoup de musulmans. Deuxièmement, il y a des hôpitaux qui sont ouverts à tout le monde. Là, il n'y a pas de difficulté. Ce sont des institutions qui datent depuis longtemps, qui sont admises, qui sont même accréditées par le gouvernement.
Est-ce qu'il y a des problèmes aussi On vous accuse de prosélytisme parce que...
On a pu nous accuser. Il y a souvent des attaques de ce côté-là. Il faut être prudent, bien sûr, surtout au point de vue social. Mais quand les gens ont compris que c'était désintéressé, ça se passe bien. Mais souvent, oui, on peut être accusé en distribuant ou des médicaments ou en allant visiter des malades. On peut nous accuser. Mais quand les gens se connaissent bien, là, ça se passe mieux. Mais c'est vrai, il faut faire très attention.
Est-ce que le gouvernement est très attentif au respect des minorités religieuses? Est-ce qu'il protège les minorités? Est-ce qu'il y fait attention?
On peut dire que maintenant, c'est pas forcément que chacun se débrouille, mais on peut dire quand même qu'il y a, en ce moment, beaucoup plus même que du temps du général Suharto, qui a régné un peu en dictateur pendant 32 ans, mais le nouveau gouvernement n'a pas l'air de s'intéresser, de s'inquiéter assez. Et c'est souvent que les autorités religieuses chrétiennes, bouddhistes ou hindouistes, les religions reconnues officiellement par la Constitution, interviennent auprès des députés, auprès du gouvernement pour se plaindre de certains faits qui sont contraires à la Constitution et à la liberté d'exercice de la religion.
Et par rapport aux fidèles, est-ce que là, les catholiques, on peut parler de discrimination ou ils vivent comme des Indonésiens avec des droits égaux?
On ne peut pas dire que les droits soient égaux, aussi bien dans les administrations que dans l'armée, la justice ou le gouvernement. Si on est chrétien, on a peu de chances de pouvoir accéder à un poste supérieur. Il y a eu autrefois des ministres chrétiens, il n'y en a plus pratiquement aucun.
Comment vous l'expliquez ça?
C'est une influence quand même, on sent une pression de plus en plus forte. Le ministère des cultes est pratiquement un deuxième état dans l'État. Il est très puissant financièrement d'une part, et puis par sa présence partout, par les mosquées, par les imams, par les institutions musulmanes. Mais autrement, dans les relations personnelles ou dans les relations de vie, souvent, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles les musulmans modérés, les minorités, s'entendent pour, par exemple, on parle d'une influence toujours plus importante de musulmans qui veulent faire de l'Indonésie un État qui relèverait du droit de la charia. Est-ce qu'il y a des sujets où vous faites rempart ensemble?
En général, on n'en parle pas beaucoup dans les conversations. C'est à l'échelon ou provincial ou gouvernemental que ça se passe. Mais dans les relations entre citoyens, la question n'est pas abordée pratiquement.
Est-ce qu'au niveau pastoral, pour vous, il y a des problèmes, des difficultés je sais pas moi, les mariages mixtes
Alors, il y a toujours les problèmes, parce que le mariage mixte n'est pas reconnu par les musulmans. Or, pour avoir le mariage civil, il faut le mariage religieux avec des gens de la même religion. Sinon, on ne peut pas se marier civilement. Ça a été un problème depuis 1974 et qui reste. C'est certain que là, au sujet des mariages, il y a toujours eu des difficultés et il y en aura toujours. Au point de vue pastoral, c'est le problème clé, ça. Le problème clé, c'est ça. Quelquefois, ça se passe bien. La partie musulmane devient chrétienne, mais souvent, c'est la partie chrétienne qui est pratiquement obligée de se faire musulmane, au moins pour la cérémonie. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ils ne reviennent pas. Mais légalement, on ne peut se marier qu'entre membres de la même religion pour avoir le mariage civil. Et le mariage religieux se fait avant le mariage civil. Inversement, ce qui se passait du temps de la colonie hollandaise et jusqu'en 1974. Là, c'est une véritable difficulté et ça provoque souvent des drames. Tout dépend des relations entre familles. Il peut y avoir des concessions. On laisse un garçon devenir chrétien ou une fille, ça arrive, mais pas souvent. Souvent, ils sont obligés de devenir musulmans.
Et donc, j'imagine que, évidemment, pour la communauté chrétienne, c'est très difficile. Vous perdez des fidèles.
C'est très douloureux. On en perd quelques-uns, oui. C'est très douloureux, bien sûr. Mais comment voulez-vous que, quand il y a trois familles chrétiennes au milieu de milliers de familles musulmanes, ça n'est pas facile non plus pour ces chrétiens isolés de choisir un partenaire autre que musulman.
Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous ?
Le problème se règle au coup par coup. Ça reste très difficile. Pour nous, c'est une souffrance, bien sûr.
Est-ce que vous diriez que l'Église catholique est une Église très vivante, ou qu'il y a des difficultés en Indonésie ?
L'Église catholique est vivante. Les communautés se retrouvent non seulement à l'église le dimanche, mais au moins presque chaque semaine dans des réunions quartier pour l'approfondissement de l'évangile. Il y a la Légion de Marie qui fait aussi du très beau travail. Il y a des difficultés qui arrivent avec la consommation qui pénètre un peu partout, avec les moyens de communication, téléphone portable, télévision, tout ce qu'il peut y avoir, les motos, les véhicules qui sont de plus en plus, ça permet bien sûr de se déplacer, mais aussi ça peut être un facteur de dispersion aussi. On le sent ça.
Vous voulez dire les gens sont moins concentrés sur la rencontre et sur leur foi ?
Un peu, parce qu'ils ont trop de moyens de distraction autrement alors qu'ils n'avaient pas ça avant. Donc c'est plus facile de regrouper des jeunes par exemple. Il faut trouver un moyen pour pouvoir les garder, mais ils ont tellement de choses maintenant qu'il est temps. Ce n'est pas spécial à l'Indonésie. On retrouve ça au Vietnam, on retrouve ça un peu partout. Partout où le progrès avance et d'une manière beaucoup plus rapide qu'ici en Europe.
Et ça sera le défi de l'évangélisation du 21e siècle en Indonésie et en Asie, c'est ça?
Je pense que c'est un des défis. Et nos évêques sont très conscients. Et nous aussi, entre nous, on se rend bien compte à l'échelon local que il y a une transformation de la société qui est très, 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 très rapide.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé qui, dans votre vie quotidienne, est très importante ?
Ce qui compte pour le dialogue, c'est pas tellement des dialogues directs où on peut faire sortir les différences, mais c'est le dialogue dans la communion de vie, dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie familiale. C'est ça qui est très important. C'est là. Et la clé d'un écuménisme, si vous voulez, de vie.